Bonjour Carré, ici c'est Benoît de Hambourg dans le nord de l'Allemagne. J'aurais pas mal de choses à dire sur les émissions passées que vous faites sur les abeilles, sur le greenwashing, étant moi-même apiculteur itinérant sur les toits de Hambourg et de la région transfrontalière avec le Danemark. Mais je vous appelle concernant votre émission sur l'impact carbone des longs voyages pour vous dire qu'effectivement, toutes les solutions proposées par vos deux intervenants étaient fort intéressantes. La principale étant, je pense, la sobriété du voyage qui est difficile à renoncer quand on a connu autre chose. Mais c'est par là qu'il faut passer. Ici, on a encore la chance d'avoir des autotrains qui se rendent jusqu'au Tyrol, en Autriche, depuis Hambourg, donc. Et on peut également, même sans voiture, prendre le train et en une journée atteindre l'ensemble de la France, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Pologne, toute l'Europe centrale jusqu'en Slovénie et au nord de l'Italie. C'est par des changements individuels que les choses vont se passer parce que comme l'un de vos intervenants a dit en parlant des avions et d'Airbus, ce n'est pas eux qui vont décider de réduire leur activité soudainement, mais bien les gens qui individuellement se contenteront de destinations plus proches. Merci pour toutes vos émissions, bonne journée.
Oui bonjour, c'est Jean-Noël de Saint-Léonard-des-Bois, éleveur de cochons en plein air. Par rapport à vos problèmes d'abattage, moi j'en rencontre un énorme. Que mes cochons, c'est une race particulière, parce que c'est des Mangalika, et que dans les abattoirs traditionnels, et ben, comme tout est normé pour du porc industriel, entre guillemets, et ben, c'est très compliqué à faire abattre, parce que c'est des animaux qui dépassent le poids et le gabarit, donc c'est très très complexe, et il faut effectivement vite faire beaucoup de kilomètres pour trouver des abattoirs qui acceptent de les prendre. D'où des problèmes de transport, et puis des problèmes de tresse de l'animal dans la remorque, faut pas rêver. Voilà, bonne journée, au revoir.
Oui, bonjour, Geneviève dans le Doubs à l'appareil. Je viens d'entendre le témoignage d'une dame qui veut aller voir son fils aux États-Unis et qui culpabilise à l'idée de prendre l'avion. Alors, je trouve vraiment cette réaction complètement ridicule. Elle n'y va pas pour faire une croisière au plaisir, elle y va pour voir son fils. Elle se pose pas la question, par contre, de ce que va coûter le bilan carbone des voitures qui vont tourner pendant 24 heures prochainement au Mans. Et réfléchissons un peu et arrêtons de se prendre la tête pour rien. Bonne journée.
Bonjour, Jérémy de Luc de Béarn. Tout d'abord, merci pour vos émissions qui m'accompagnent régulièrement dans mes travaux des vignes. Je laisse un message pour convier les auditeurs de la Terre au Carré, notamment ceux des Pyrénées-Atlantiques, à une conférence qui aura lieu au Domaine de la Roudée de 14h à 17h, samedi 23 avril, sur le changement climatique et les incidences sur nos raisins et sur nos vins. Nous parlerons de comment s'adapter à ce changement et nous terminerons la conférence par une dégustation de notre gamme de Jurançon. Merci, à samedi.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Claire de Loire-Atlantique. Alors je tiens à dire un grand bravo à Émilie Jeannin pour avoir mis en place le premier dispositif d'abattoir mobile. J'espère qu'il y en aura bien d'autres sur le territoire. Et je comprends tout à fait son agacement face au conseil de manger moins de viande. Je pense qu'il est nécessaire de préciser de manger moins de viande et surtout de manière locale. Car au final, quel est le bilan de carbone d'un steak argentin ou même d'un animal nourri au soja ou maïs importé de l'autre bout du globe? Et cela ne concerne évidemment pas que la viande. Ce dimanche, je vote Camille Crony et Mathieu Vidard au ministère de l'écologie. Allez, on peut toujours rêver. Bon après-midi à tous.
Prête pour le ministère de l'écologie, Camille?
Pas du tout.
Voilà. Merci Claire de nous imaginer sous les ordres de la République. Mais franchement, on préfère très nettement continuer à vous parler derrière le micro en mousse de France Inter. En tout cas, si vous avez de bonnes idées de reconversion, n'hésitez pas à le faire savoir sur ce répondeur au 01 56 40 45 45. Il aura fallu un drame planétaire avec l'émergence d'une nouvelle pandémie due à la Covid-19 pour que l'on commence vraiment à s'intéresser au lien entre la santé humaine et la crise de la biodiversité. Les écologues qui travaillent partout dans le monde sur le terrain alertent pourtant depuis de très nombreuses années sur les dangers de la destruction des écosystèmes et leurs conséquences justement sur le développement de nouvelles maladies. La fabrique des pandémies, c'est un livre qui a été publié l'année dernière et qui raconte justement comment les chercheurs de la planète travaillent dans différents milieux pour préserver la biodiversité et la santé humaine. Et cet ouvrage fait désormais l'objet d'un film documentaire qui sera présenté en avant-première à partir de demain en France puis à l'étranger. Il est porté par l'actrice Juliette Binoche et nous recevons pour en parler son autrice, Marie-Monique Robin, et l'un des scientifiques présents dans ce film, l'écologue Serge Morand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, Serge Morand. Vous êtes écologue de la santé, parasitologue, chercheur au CNRS et au CIRAD. Vous êtes professeur invité à la faculté de médecine tropicale de l'université Mahidol à Bangkok, en Thaïlande. Et vous avez publié l'année dernière L'homme, la faune sauvage et la peste chez Fayard. Et ça faisait un moment qu'on vous attendait en France. Donc ça y est, vous êtes là. C'est l'occasion d'en parler avec vous dans un instant. Marie-Monique Robin, vous êtes réalisatrice, journaliste. Pendant 2 ans, vous avez parcouru 8 pays pour réaliser donc ce documentaire sur les facteurs d'émergence des maladies infectieuses. Film coproduit par l'IRD et qui sera donc présenté en avant-première demain à l'UNESCO à Paris avant d'être diffusé sur Ushuaïa TV le 22 mai, sur France TV Outre-mer le 23 mai et avant une sortie en salle. On va se retrouver donc dans un instant pour parler santé et biodiversité, les messages des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30, on passe au vert.
Tapinoma magnum, charmante petite fourmi méditerranéenne qui gagne de plus en plus de terrain, elle envahit l'ouest de la France.
Et puis avant 15h, ce sera le rendez-vous de la campagne pour l'élection présidentielle. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï. Dossier préparé par Chantal de Montagny, Henri Béret qui est à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
On est tous interconnectés. La santé des écosystèmes, et la santé des animaux, domestiques et sauvages, et la santé des humains, tout est lié.
Pangolin, 5000.
Ça glisse, faites très attention.
Le lien entre la déforestation et les maladies d'origine animale est établi par de nombreuses études. La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité.
Ça va aller.
Ça, il faut que les gens le comprennent.
Un extrait de la bande-annonce de La Fabrique des Pandémies, nouveau documentaire que vous signez, Marie-Monique Robin, et qui va donc se déployer dans toute la France à partir de demain pour cette avant-première. Juliette Binoche vous a accompagné aux quatre coins du monde pour enquêter sur les facteurs d'émergence des maladies infectieuses. Et c'est donc en Thaïlande que vous avez retrouvé Serge Morand, qui est également avec nous cet après-midi. C'est donc l'adaptation de votre livre. Là, vous avez fait le contraire d'habitude. Hein,
c'est ça, tout à fait.
Parce d'abord, que vous commencez en général par le film.
Voilà, je commence par le film, ça nourrit le livre, tout ça ensemble. Mais là, confinement oblige. Je suis ravie de rencontrer Serge de nouveau en France cette fois, parce que ouais, il a fallu attendre quand même 1 an et demi avant qu'on se connaisse physiquement.
Voilà, mais vous avez fait beaucoup de visio ensemble, hein. Vous voilà, avez vraiment ça, beaucoup partagé.
La Thaïlande est un pays qui était très fermé, n'est-ce pas, pendant.
Enfin, ouais, tout à fait.
Voilà.
Pourquoi Juliette Binoche dans ce documentaire très scientifique, Marie-Monique Robin, et quel est son rôle auprès des chercheurs, alors, parce qu'on l'attend pas du tout dans cet exercice-là, hein.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais déjà écrit j'étais en train d'écrire le livre, j'avais fini le synopsis du film, et j'ai rencontré Juliette. En fait, par hasard, parce qu'elle m'a demandé de participer à un festival dont elle était la présidente. Et elle a une grande sensibilité pour l'écologie et elle avait envie d'apprendre, de comprendre. Et je me suis dit, voilà, c'est intéressant, quoi, l'idée de se dire que quelqu'un qui n'y connaît rien en science fait ce travail. Elle a fait un énorme travail, n'est-ce pas? Et joue le rôle intermédiaire, finalement, entre le public, qui peut avoir peur, parfois, hein, de la parole des scientifiques en se disant, n'est-ce pas, Serge, je vais rien comprendre, donc ça m'intéresse pas. Et du coup, elle nous ramène toujours à la position du téléspectateur lambda, j'allais dire. C'est pas du tout méprisant, hein, c'est simplement de se dire. Et je trouve que c'est un pari. Et franchement, je suis contente parce que je trouve que ça marche, quoi. Enfin, elle arrive vraiment à incarner, celui qui n'y connaît rien et qui veut apprendre.
Est-ce qu'elle a été une bonne intervieweuse de chercheurs, alors Serge Morand, Juliette Binoche?
Complètement. Et pour moi, en plus, ça a été quelque chose d'assez remarquable. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui revenait au passé. Parce que je l'ai connue jeune. Pour un film qui s'appelait Le Hussard sur le toit,
ah oui,
qui était sur l'histoire du choléra, donc dans le sud de la France, quoi. Et je la retrouve avec Marie-Monique et à rediscuter de maladies infectieuses. Donc c'était vraiment fantastique. Et ce que j'ai vraiment bien aimé avec Juliette et d'ailleurs avec tout le travail avec Marie-Monique, c'est finalement l'injonction qu'on a, c'est comment expliquer simplement des choses qui sont complexes, compliquées.
Et pour le coup, le message passe bien parce qu'on comprend absolument tout ce que nous disent les scientifiques qui d'ailleurs convergent tous, hein, sur les mêmes conclusions, quel que soit le pays où ils travaillent. Et donc vous avez pu partager, entre autres avec Juliette Binoche, votre passion pour les rats, Serge Morand. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez autant à cet animal?
je m'intéresse pas que simplement qu'aux rats, mais
non,
c'est
mais
vrai
vraiment,
que...
vous avez un big crush avec les rats, visiblement.
Voilà, de toute façon, les rongeurs, oui, c'est des animaux qui ont vraiment un grand succès, hein, évolutif, hein. C'est eux qui survivront aux humains, hein. Et qui arriveront, on peut imaginer, même comme on aura des grands rats, des petits rats, ils vont rouvrir les niches, quoi. Non, ils vivent très proche des humains. Mm-hmm. Donc, ils ont été les premiers en termes, finalement, avec la domestication, à se domestiquer aussi, avec le rat d'égout et le rat noir, et à transmettre beaucoup de maladies infectieuses. Ils sont aussi dans les laboratoires.
C'est vrai.
Donc, les gens les connaissent, les gens les chassent, les gens les partout, hein, partout au monde, quoi. Donc, c'était vraiment le bon modèle pour y arriver. Mmh. Et c'est eux qui nous font souvent des intermédiaires assez importants,
ouais.
Y compris d'ailleurs pour des coronavirus qui ont émergé.
C'est ça, intermédiaires ou bouc émissaire, parce qu'on peut voir les choses différemment. Et finalement, tous les animaux qu'on croise dans ce film, Marie-Monique Robin, sont ceux qui ont mauvaise presse, hein, très souvent, finalement. Hein.
Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que effectivement, mais tu pourrais dire les rats, comme le dit Juliette, d'ailleurs dans le film, ça fait peur. Pense à la peste, puis voilà. Ou les chauves-souris, tout le monde, tu vois, quand
ou les moustiques.
Voilà, voilà. Et finalement, moi, ce qui m'a fasciné, mais ça fait quand même 2 ans maintenant déjà avec le livre, mais maintenant avec le film évidemment aussi, c'est comment vous, les scientifiques, vous pouvez vous prendre véritablement d'amour pour ces objets d'étude, quoi. Parce qu'en fait, il y a toujours 2 facettes. Un rat, effectivement, il peut faire peur parce qu'il peut porter des maladies, mais un rat, ça transporte aussi les graines dans la forêt. On en a besoin. Les chauves-souris, c'est pareil. Je veux dire, si on n'a pas de chauves-souris, eh bien, on n'a pas de pollinisateurs, elles mangent les moustiques. Donc, il y a toujours un double, vous voyez, une double facette. Et finalement, je trouve assez fabuleux, ces animaux. Moi aussi, maintenant. Ouais.
Vous, Serge Morand, au-delà de votre passion rat, donc, votre travail d'écologue et de parasitologue basé en Thaïlande, donc, il consiste en quoi, précisément, dans le cadre aussi de la pandémie qu'on vient de vivre?
Alors, il a commencé un peu...
Qu'on vit encore, d'ailleurs.
Oui, il a commencé un peu avant, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, je dis 2008, quand il y a eu ce premier papier qui est sorti sur les épidémies, sur cette émergence d'épidémies. Donc, très, très vu du côté santé humaine. Puis un autre papier qui est sorti sur les problèmes de baisse de biodiversité, où il y avait un point chaud unique, c'était l'Asie du Sud-Est. Et là, je me suis dit, moi, je m'intéresse essentiellement aux parasites, pourquoi il y en a autant, quels sont ses rôles en écologie, en évolution, biologie moléculaire. Et là, je me suis dit, il y a un sujet. C'est pour ça, en fait, que je suis parti là-bas. J'ai voulu travailler un peu sur les chauves-souris au départ, hein. Mais on m'a dit, notamment avec des personnes assez proches, financées par les Américains, un groupe qu'on connaît, ils ont dit, non, restez sur vos rats, quoi. Donc, et puis voilà, j'ai continué, je trouve très bien.
Justement, dans votre ouvrage, hein, que vous avez publié l'année dernière, L'homme, la faune sauvage et la peste, vous écrivez votre colère, hein, finalement, parce que cette pandémie qu'on vit tous et qui dure, effectivement, vous l'aviez anticipée depuis effectivement très très longtemps, sauf que personne ne voulait vous écouter. C'est-à-dire que c'était vraiment aussi le problème de la parole des scientifiques, là, que vous décrivez, hein.
Oui, on était nombreux. C'est pour ça que c'était intéressant, encore une fois, pour Marie-Monique, c'est-à-dire de finalement d'entendre ce même cri, un peu de colère, un peu partout, c'est-à-dire avec mes collègues, des amis, donc on se connaît, on a même une certaine réputation au niveau international, mais finalement, on a aucun impact au niveau gouvernemental, ou si peu, même encore maintenant, quoi. Donc on voit qu'on a encore aujourd'hui. Moi, je suis assez optimiste de voir les collectivités locales, les administrations locales, ouais. Les villes comme la ville de Lyon, par exemple, prendre ça en compte, imaginer des choses. Au niveau international, les grandes organisations internationales, et par contre, les gouvernements, ça suit pas vraiment.
Marie-Monique Robin, ceci l'objet de ce film, c'est qu'on entende vraiment la parole des scientifiques,
oui.
Hein.
Oui, je me rappelle quand je t'ai contacté la première fois, Serge, tu te rappelles, en plein confinement, au début, on se connaissait pas, et tu m'avais dit, j'aimerais que tu fasses comme tu as fait avec le monde seulement Santo, c'est-à-dire que tous ces lanceurs d'alerte qui sont sur la planète, qui se connaissent pas, enfin, qui sont jamais rencontrés, tu les rassembles dans un film. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Serge en Thaïlande, Rodolphe Gosselin, ton collègue en Guyane, ou Richard Osfeld aux États-Unis, ou Gaël Maganga
au Gabon,
ils disent tous, attention, si on continue de détruire les écosystèmes, nous allons entrer dans ce que tu appelles une ère d'épidémie, de pandémie, parce que la liste des nouvelles maladies émergentes est très longue. Hein. Sortons un peu de la Covid, il y en a bien avant, il y en a eu beaucoup avant, et il y en aura sûrement d'autres, d'ailleurs. Et vous n'êtes pas entendu. Vous n'êtes pas entendu parce que on connaît les causes qui sont écologiques de l'émergence de ces maladies, donc si on veut y remédier, ben c'est exactement comme pour le climat. Il faut revoir beaucoup de choses, et notamment notre économie. Et ça.
On a pourtant l'impression, alors je ne vais pas dire depuis quelques années, mais au moins depuis quelques mois, que, en tout cas, le mot les scientifiques apparaît, y compris dans les mots du gouvernement. Bon, là, pour la gestion de la pandémie, il y a le conseil scientifique. Sur le climat, il y a aussi le GIEC, dont on parle beaucoup, les scientifiques, donc du GIEC. Serge Morand, justement, j'allais vous demander, vous, les écologues qui, justement, faites des modélisations, etc., aujourd'hui encore, même avec la pandémie, pandémie qu'on vit en ce moment. On regarde pas ce que vous programmez, ce que vous imaginez, ce que vous étudiez pour les prochaines années. Personne ne vous consulte, vraiment.
Si, alors, au niveau des organisations internationales, ça c'est clair, hein, justement avec ce haut panel d'experts ONS. Là, il y a un haut panel que je travaille aussi sur les forêts, donc forêts et santé humaine. Il y a l'IPBS, donc ce groupe qui est un peu comme le GIEC, mais pour la biodiversité, qui lance aussi son nouveau rapport. J'ai la chance de participer sur le nexus entre agriculture, eau et santé et biodiversité. Donc, il se passe des choses, réellement. Il y a une mobilisation des scientifiques comme il n'y en a jamais eu, quoi. Donc, ça nous fait aussi un peu plaisir, quoi. Mais après, on se dit, mais il faut mettre ça en musique, quoi. Il faut vraiment agir. On connaît les déterminants, on sait qu'on a des facteurs importants, on sait que c'est compliqué. C'est des problèmes, ce qu'on appelle, hein, des problèmes compliqués, complexes, épineux, quoi. C'est pas simple. Ça suppose de les prendre de façon intégrée, ça suppose de travailler en interdisciplinaire, en intersectoriel. Mais là, d'un seul coup, on se retrouve complètement, après, c'est les silos. La santé est là, l'écologie est là.
On le voit d'ailleurs dans le film, le gros problème, quand même, c'est la mondialisation. C'est-à-dire qu'on échange nos virus à une vitesse folle. Marie-Monique Robin, c'est ce qui est décrit par les chercheurs. Hein. Ouais, c'est quand même tout le problème aujourd'hui.
Serge, il donne souvent l'exemple qui est dans le film du virus Nipah, parce que je trouve que c'est vraiment un super exemple, quoi, pour comprendre les trois facteurs principaux. Hein. Ce virus qui apparaît en Malaisie, parce qu'on a fait fuir les chauves-souris de Bornéo où on implantait des palmiers à huile. Mmh. Et du coup, elles atterrissent sur des champs de manguier, elles défèquent, il y a des cochons en dessous, et voilà comment on a une épidémie qui se crée. Donc trois facteurs, déforestation, n'est-ce pas, élevage intensif, et puis globalisation. Eh bien, c'est les trois facteurs principaux. Et pour ce que vous disiez, Camille, il faut quand même savoir que dans les comités scientifiques sur les vaccins, il n'y avait pas d'écologue de la santé. Pas du tout. On est sur le virus, les virologues, etc. Mais pas
donc le côté hermétique dont parle Serge Morand.
Et silo. C'est-à-dire qu'il faut des excellents virologues. Évidemment, toujours. Mais il faut...
Il faut que les gens communiquent, se croisent.
Et essaient de rentrer dans une vision globale et holistique de ces problèmes de santé.
Allez, la fabrique des pandémies, c'est le dossier de la Terre au carré. Et plein de messages pour vous de la part des auditeurs. On vous les transmet dans un instant.
À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit, amère et meurtri. Si triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. Chante la plus triste des chansons de ce triste monde. Amis désenchantés qui connaissaient le prix de la mère vérité, venez vous rassembler, car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession? Oh, oh, écoute, oh, oh, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde. De ce triste monde.
Des chansons, on vous l'a offerte à l'instant. Arthur H.
La Terre au carré sur France Inter.
On regarde la forêt comme ça. Il y a quelque chose d'originel là-dedans. il y a quelque chose de fort parce que c'est là, quoi, tu vois, à la naissance du monde, il devait y avoir ça, quoi.
Parce que c'est une forêt primaire.
Ouais. Ouais, ouais, parce qu'elle était là avant nous, parce qu'elle sera là, j'espère, encore longtemps. Et la biodiversité, c'est l'infinie beauté du monde, du micro-organisme jusqu'au jaguar, jusqu'au panda, tu comprends?
Alors, il y a quand même 650 espèces de moustiques. Et là, alors là, la biodiversité,
à quoi ça sert? Mais justement, il vaut mieux avoir beaucoup de moustiques qu'un seul qui s'appelle moustique tigre. En ville, t'as moins de diversité de moustiques, mais
ils sont plus dangereux.
Sont plus dangereux.
Vive les 650 moustiques!
Juliette Binoche en Guyane avec Rodolphe Gozlan, extrait de ce film La Fabrique des Pandémies que vous signez Marie-Monique Robin. Vous l'avez fait barouder, hein, ouais. Juliette Binoche. Hein.
Ouais.
Là, c'est pas le confort des plateaux de ciné habituels.
Ouais.
Hein.
Et d'ailleurs, je la salue parce que franchement, c'était dur, hein, parce que c'est vrai que les conditions de tournage dans le documentaire, c'est pas la même chose.
Enfin, c'est très roots par rapport au luxe des plateaux de ciné.
Là, on a dormi dans un hamac, on se baignait dans un trou d'eau. Enfin bon, voilà, les crocodiles pas loin, ils nous avaient tourdi, des moustiques partout, soi-disant. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant cette histoire parce que c'est l'effet d'illusion, là, en fait, qu'on vient de.
Alors, c'est quoi l'effet d'illusion?
Le fait que, par exemple, il y a 650 moustiques, il y en a que deux parmi ces 650 qui sont adaptés à piquer les humains, c'est-à-dire que les autres, ils piquent de, je sais pas quoi, des oiseaux, enfin, etc. Et ces deux-là sont dangereux pour nous, c'est la fièvre jaune, c'est le paludisme, etc. Mais la probabilité de se faire piquer par ces deux-là, quand il y en a 650, elle est beaucoup plus réduite, vous comprenez, que dans un endroit où vous n'avez que le moustique tigre ou les anopheles, ou ce qu'on a vu avec toi, Serge, dans les plantations d'EVA, par exemple.
Serge Morand, qui est avec nous, voilà. Hein, pour ceux qui l'entrouvent à l'instant. Donc c'est toujours une histoire de biodiversité, finalement. Et alors, il y a une image, moi, je trouve très parlante, c'est vous montrer justement deux cartes à Juliette Binoche, une carte des épidémies mondiales et une carte de la déforestation. Et alors, ça se superpose parfaitement, c'est-à-dire dès lors qu'il y a déforestation, il y a aussi un problème de maladies émergentes, quasiment systématiquement. C'était le cas pour Ebola, par exemple, au Gabon, avec des poussées d'Ebola, deux ans après avoir déforesté la forêt. Donc ça, c'est tout à fait simple à comprendre, c'est factuel.
Oui, en fait, et je crois que l'effet d'illusion, ça s'explique bien par ce que c'est vraiment la biodiversité et ce qui nous fait la différence entre le danger et le risque. Le danger, ben oui, il y a plein de microbes potentiellement pathogènes. Mais le risque, il n'est pas forcément important. Le risque devient plus important à partir du moment où on perd l'aspect essentiel de la biodiversité, qui est pas simplement que le nombre d'espèces, mais les interactions. On perd, ce qu'on avait discuté tout à l'heure, les prédations, qui vont un peu réguler les arthropodes, les vecteurs. On perd les compétitions, notamment entre différents types de moustiques, et là, automatiquement, ceux qui gagnent, ce sont souvent ceux qui aiment le plus les habitats très anthropisés, ou très supports, qui ont aussi beaucoup d'animaux domestiques, et qui en fait font faire leur slick, et là, ils sont même plus régulés du tout.
Donc mais
là,
ce qu'on voit bien, c'est que les microbes, les virus, par exemple, ils vivent naturellement dans des milieux comme la forêt tropicale, hein, donc c'est leur milieu naturel, il n'y a pas de problème, hein, mais dès lors, justement, enfin, il n'y a pas de problème. Beaucoup moins que quand on vient déforester, quand même.
Oui, voilà. En fait, c'est ce qu'on apprend avec l'écologie, l'évolution, c'est-à-dire ce qui m'a intéressé pendant pas mal d'années, c'est pourquoi il y a tant d'espèces de parasites et de virus, comment ça, quels sont les impacts. Alors oui, ça a des impacts, mais généralement, le fait de l'écologie, le fait de l'évolution, des transmissions, souvent, on va vers des systèmes qui sont de plus en plus tolérants. L'exemple typique, c'est les chauves-souris, qui en fait ont diminué leur système immunitaire pour être plus tolérants et moins résistants. Ce qui fait que ces virus, en fait, ont diminué aussi leur virulence vis-à-vis de leurs hôtes. Et c'est les changements importants, et notamment quand on met des fois des chauves-souris en stress, ou quand elles perdent même des fois leur diversité microbienne, qui se trouve d'un seul coup aussi porteuses de problèmes et qui peuvent en faire en même temps évoluer. L'exemple typique, je pense aussi, c'est les grippes aviaires. Les grippes aviaires, on voit d'un seul coup que le nombre de poulets sur Terre est arrivé à 40 milliards. Le nombre d'oiseaux, il est descendu à 50 milliards maintenant. On va bientôt avoir plus de poulets que d'oiseaux sauvages total, quoi. Toutes les épidémies se font évidemment, et maintenant l'amplification se fait dans le compartiment d'élevage, et on a de plus en plus d'épidémies et de mortalité des animaux, des oiseaux sauvages qui n'existaient pas avant.
Camille, des questions des auditeurs de la Terre au Carré.
Oui, Gilles demande sur franceinter.fr comment est-ce qu'on peut expliquer les grandes épidémies du Moyen-Âge alors qu'à cette époque il y avait plus de biodiversité qu'en 2022. Et j'ajoute la question d'Erwan sur Twitter, est-ce que le documentaire parle aussi des pandémies passées, donc notamment le choléra, la peste, subies par l'humanité avant même que la biodiversité ne soit modifiée par l'homme, Marie-Monique Robin?
Ça, tu peux très bien répondre sur la peste, etc. Évidemment, il y a toujours eu des grandes épidémies, des pandémies dans le monde. L'histoire de la peste, c'est intéressant parce que tu le racontes très bien dans un de tes livres. D'ailleurs, c'est que eh bien, les rongeurs qui sont porteurs du bacille de la peste ont pris les bateaux et ont suivi les routes commerciales et ont pu évidemment se diffuser partout. Sauf que ce qui se passe en ce moment, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que l'OMS estimait qu'il y avait une apparition de maladies émergentes tous les 15 ans jusqu'aux années 1970. Aujourd'hui, on est à 1 à 5 par an. N'est-ce pas? Et la liste est très très longue, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant des épidémies qui deviennent de plus en plus pandémiques, c'est-à-dire avant étaient plus localisées, n'est-ce pas? Mais qui nous apportaient peu, parce que finalement le virus Nipah dont je parlais tout à l'heure, c'était en Malaisie, n'est-ce pas? On avait le Zika, Chikungunya, mais c'était pas chez nous en Occident. Mais on peut ajouter le MERS, le premier coronavirus,
Ebola
qui, toutes ces maladies étant d'ailleurs bien plus mortelles que le coronavirus. Voilà. Donc il y a de plus en plus de ces maladies qui émergent, et le travail de ces chercheurs comme Serge Morand, c'est de montrer que ce sont les facteurs écologiques qui font que, eh bien, on perturbe les équilibres qui existent dans des espaces sauvages et naturels comme les forêts primaires, par exemple. Et c'est en faisant ça, en faisant ces intrusions dans ces forêts, qu'on libère ces virus et ces agents pathogènes.
Mais pour répondre, pardon, à la question d'Erwan, c'est pas abordé, en tout cas, les épidémies, pandémies passées sont pas abordées dans le documentaire La Fabrique des
Pandémies. Dans le film, non. Dans le livre, oui, mais dans le film, on est vraiment, parce qu'il y a des mécanismes à comprendre, on est quand même vraiment dans le travail aujourd'hui de ces scientifiques, comment ils sont arrivés à ces conclusions, que ce sont les facteurs écologiques qui contribuent à l'émergence de ces maladies. Et on peut pas tout mettre, et pourtant le film fait 1h50.
Serge Morand, la façon dont se transmet un virus, ça joue énormément dans son degré de contagiosité. Si Ebola, parce qu'il y a un des chercheurs qui en parle justement au Gabon, si Ebola se transmettait dans l'air comme le SARS-CoV-2, ce serait une pandémie incroyablement létale. Et ça pourrait très bien arriver. C'est un scénario qu'on peut imaginer un jour.
Notamment les scénarios, c'était surtout avec les grippes, quoi, les virus grippaux, quoi, où là en fait la transmission est vraiment par l'air, quoi, et il peut avoir des effets de virulence très importants, quoi. Donc oui, c'est vraiment le cas. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que même d'un point de vue transmission, d'un point de vue même évolution, un virus qui est très pathogène, donc qui tue rapidement, déjà premièrement il alerte, on s'en rend compte. Et c'est pas forcément un virus qui va forcément réguler sa population haute, c'est-à-dire qui va pas forcément créer une mortalité très importante, parce que ça va répondre très fortement. Très fortement, il y a cette interaction qui se passe. Le SARS-CoV-2 et d'autres avec un peu plus de taux, finalement, on met du temps à détecter, on met du temps à s'en rendre compte.
Il y a une longue incubation, c'est ça.
Voilà, et puis la mortalité peut être un peu verte, et il peut y avoir des impacts forts. L'exemple typique du sida était quand même relativement important, puisqu'on a eu un impact finalement sur la mortalité humaine globale. Quoi. On a une vision, alors que ce virus a une létalité faible. Il faut 20 ans. En moyenne, mais grâce aux médicaments, il fallait quand même plusieurs années.
Ce qui n'est pas le cas avec Ebola, avec une très forte létalité, des fièvres hémorragiques immédiates.
Taux de mortalité de 80-90%, enfin, c'est quand même sérieux. Moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai rencontré Gaël Maganga, qui a donc travaillé dans un laboratoire P4 haute sécurité au Gabon, il suit de très très près à Ebola, parce que lui m'a dit qu'il n'était pas exclu que ce virus, qui pour l'instant ne se transmet que par les fluides, c'est-à-dire si vous entrez en contact avec le sang, les urines, y compris d'ailleurs le sperme ou le lait maternel d'un malade. Donc voilà, pour l'instant c'est le seul moyen de contamination et c'est très très létal. Mais s'il évolue, si, à force de circuler, lui m'a dit, les virologues, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait pas exclure une transformation qui permettrait qu'il se transmette autrement. Alors là,
scénario catastrophe absolu.
Oui, vraiment, scénario catastrophe, vraiment.
La Fabrique des pandémies, on en parle cet après-midi. Ça va sortir sur les écrans. On vous donnera les dates, en tout cas pour les avant-premières, Marie-Monique Robin, avant la télé, et également les sorties en salle.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille Passauvert, un sujet qui va vous intéresser, Serge Morand.
Et si vous n'avez pas de sensation de frisson ou de gratouillis dans les 5 minutes qui viennent, je rends mon tablier. Voici le résumé en une phrase.
Si vous connaissez le film Les oiseaux d'Hitchcock, eh ben c'est la même chose avec les fourmis.
Les fourmis envahissantes à Saumur, dans le Maine-et-Loire.
Il y en a partout, partout, partout. On n'en peut plus, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, parce que c'est pas 10 fourmis, c'est des milliards et des milliards de fourmis.
Alors Sylvie Leroy, habitante de Saumur, exagère un petit poil sur le nombre, mais pas tant que ça, puisque même les spécialistes des fourmis comme Jean-Luc Mercier, maître de conférence à l'IRBI, l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte de l'Université de Tours, qui est allé sur place, dit ça.
Je suis resté assez scotché sur l'étendue de l'infestation.
18 hectares à Saumur, envahis donc par Tapinoma magnum.
C'est une française, Tapinoma magnum, qui existe depuis très longtemps donc autour de la Méditerranée.
Mais désormais présente dans l'Ouest, donc depuis 5 ans environ, elles ressortent dès que les beaux jours arrivent. Michel et Jean-Yves Pinault, eux aussi, ont fait connaissance avec la bestiole de 3 mm à peine.
C'est des colonies qu'on a. Vous en avez plein les pieds, vous en avez partout, quoi.
Faut le voir pour y croire. Là, tout à l'heure, on regardait, j'ai des pivoines, elles sont pleines de fourmis. On a un abri où on mange l'été, ben on peut pas y aller parce que c'est plein de fourmis.
Moi, j'arrive à lire l'été dernier, ben j'avais donc dans mon fauteuil et les pieds en l'air pour pas qu'elles viennent me manger ou me piquer, quoi. Enfin, elle m'en veut pas, mais ça pique au bout d'un moment, c'est désagréable, quoi.
Ah, ça commence à chatouiller un petit peu ou pas, là?
Ouais, ça commence, ouais.
En plus, quand on l'écrase, sachez-le, et c'est comme ça que vous pourriez d'ailleurs le savoir si c'en est une, Tapinoma magnum, elle dégage une odeur de beurre rance. Mmh. Alors, ils ont essayé plein de trucs pour s'en débarrasser.
On achète des bombes cash ou je sais pas quoi à Leclerc et puis en fait on asperge les trous, on a tout essayé en fin de compte l'année dernière, on avait tout essayé, même jusqu'à de l'acide de batterie que j'ai mis dans le trou pour voir sur un trou. Et ben 2 jours après, elles étaient revenues. Hein.
Voilà, donc non seulement catastrophique pour la santé et pour les sols, et en plus pas efficace durablement, les bombes insecticides ou l'acide de batterie en l'occurrence. Sylvie Leroy, elle est allée encore plus loin.
Moi, j'ai même acheté un produit cancérigène, hein. Zitop ou un truc comme ça. Bah, qu'est-ce que vous faites? C'est infernal. J'avais mis des copeaux de bois dans tous mes parterres. J'ai fait tout enlever par un jardinier. J'ai mis 2 couches de géotextile et des gravillons par-dessus et elle passe à travers le géotextile.
Des fourmis dans le jardin, dans la boîte aux lettres, dans la cuisine, dans le salon et même dans le bac à douche, oui. Mmh. Il faut dire qu'elles aiment la chaleur et l'humidité également et qu'elles sont faites pour résister et être nombreuses. Écoutez les explications du chercheur Jean-Luc Mercier.
Elles sont petites, très nombreuses et qu'elles sont suffisamment agressives pour bien se défendre contre d'autres espèces. Enfin, une biologie aussi qui est caractéristique des espèces envahissantes, je dirais. Par exemple, elle est polygyne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs reines. Donc plusieurs reines qui pondent, bien sûr, hein, quand on parle de reines, c'est celles qui pondent. Et donc une grande production d'individus.
Et le tout en milieu urbain, donc, et là aussi, il y a une raison.
Les milieux anthropisés, ce sont des milieux qui sont dégradés. Donc il y a peu de biodiversité dans ce genre de milieu, et donc elle peut s'installer très bien tant qu'elle trouve de la nourriture, elle se développe sans problème. Vous avez un jardin, vous l'entretenez, il est bien beau, bien propre, bien net, etc. Ça a un avantage, c'est que c'est très joli. Le désavantage, c'est que la biodiversité elle-même dans ce milieu-là est plus faible. Donc première espèce qui arrive et qui est un petit peu boostée au niveau développement, elle s'installe sans problème.
Moralité, n'entretenez pas trop votre jardin, laissez vivre un petit peu tout ce petit monde, mais vous allez quand même me demander comment ces fourmis méditerranéennes, et qui font aussi des sueurs froides depuis plusieurs années en Corse, comment elles sont arrivées dans l'Ouest, même jusqu'aux Pays-Bas, on en a vu.
Transport humain, hein, essentiellement.
Et oui, c'est nous qui les baladons, hein. On en a retrouvé par exemple dans les bottes de terre qui sont au pied des oliviers, vous savez, vendues en pépinière, et une fois installées, les habitants malheureux de Saumur en témoignaient, très difficile de s'en débarrasser.
On n'a pas d'armes absolues à l'heure actuelle.
D'autant que même s'il s'agit d'une espèce envahissante, elle n'est pas invasive, hein, faut faire le distinguo, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de mal au reste de la biodiversité et même sanitairement, Tapinoma magnum ne présente pas de danger, hein. C'est vrai qu'elle peut mordre et non piquer, mais c'est sans risque pour la santé, donc l'idée n'est pas du tout d'éradiquer cette Tapinoma magnum, mais de la contenir. Quelques pistes sont avancées par Jean-Luc Mercier.
La terre de diatomée, qui est une terre extrêmement fine, elle va boucher les trachées respiratoires des fourmis. Il y a une méthode qui est en train d'être développée, notamment en Suisse, c'est l'utilisation d'une hormone juvénile qu'on appelle le métoprène, qui permet en fait finalement de stériliser les reines. Après, on a un neurotoxique, on appelle le spinosad.
Mais toxique donc pour les fourmis bien sûr, et pour les sols, donc ça ne peut pas être généralisé. Idem pour un autre traitement en cours d'étude, ce sont des néonicotinoïdes, donc évidemment catastrophe pour les abeilles. La mairie de Saumur vient de lancer une opération pour traiter les zones touchées et les foyers. Traitement chimique, hein, je le précise. Pendant que Sylvie Leroy et les autres veulent prévenir tout le monde, surtout vous ouvrez les yeux et vous anticipez au maximum. Elle est aujourd'hui, elle, complètement désespérée dans sa maison, pourtant adorée à la base.
Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir la maison que j'ai. Ça fait 9 ans que je l'ai achetée, je suis à la retraite. C'est invendable. Qui c'est qui vous voulez qu'achète une maison qui est infectée par des fourmis ?
Voilà, condamné à y rester en attendant peut-être une bonne solution, condamné à cohabiter donc avec Tapinoma Magnum, fourmi qu'elle aimait bien en plus dans l'absolu, mais dont elle est désormais, elle me l'a dit, totalement phobique.
Voilà, les fourmis, un inédit d'Alfred Hitchcock, c'était Camille Passauvert.
Serge Morand, on entendait donc notamment l'explication de Jean-Luc Mercier. Voilà, elles aiment bien venir en milieu urbain anthropisé parce que moins de biodiversité, parce que les jardins sont beaucoup trop propres, entre guillemets. Est-ce que ça, même si c'est à une toute petite échelle et que ces fourmis, on le rappelle, n'ont pas de danger, ne présentent pas de danger sanitaire, est-ce que c'est des petites choses qu'on peut faire chez nous, c'est-à-dire laisser un petit peu plus vivre justement la nature qui nous entoure?
C'est une bonne question. C'est d'ailleurs en ce moment avec la mairie de Lyon qui a mis en place le One Health, une seule santé pour les animaux à problème. Typique pour fourmis, typique rongeurs, typique même y compris les chats, quoi. Y compris, c'est-à-dire comment les gérer de façon mieux, d'éviter ces conflits avec les humains, éviter d'utiliser des pesticides, des biocides finalement qui servent à rien puisqu'on a des résistances, y compris les rongeurs. C'est-à-dire travailler à la fois sur d'autres solutions et travailler sur aussi le lien entre finalement les humains et cette faune qui peut vraiment très très désagréable. Donc ça travaille sur les moustiques, notamment comment mieux contrôler les moustiques tiques qui sont bien installés en Europe.
Mais qui eux sont invasifs, hein, on précise.
Complètement. Des tiques aussi qui peuvent être invasives ou envahissantes. Donc on a les deux. Et puis les rongeurs qui sont cohabitent depuis très longtemps, quoi. Donc utiliser par exemple des solutions relativement intéressantes, par exemple qui s'appellent sur le paysage de la peur. C'est-à-dire créer des paysages et des environnements qui font penser aux rongeurs que c'est plein de prédateurs. Et donc, ça a des effets très forts de contention.
Ça veut dire quoi, concrètement, pardon, mais?
Alors, par exemple, il faut créer, en fait, des lieux qui, en fait, peuvent héberger potentiellement des chats.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils vont avoir des surplombs, il va y avoir des choses, il y a des paysages un peu ouverts, donc tout ce qui peut, ou des espaces un peu cachés, donc tout ce qui va créer un paysage de la peur.
Donc, et ça fonctionne.
Voilà. Ouais. Ça fonctionne, des fois, bon, ça fonctionne pas, parce que c'est toujours pareil. Donc c'est pareil, un peu comme nous, en tant que chercheurs, qu'on parlait, c'est de se mettre dans la tête d'un rat ou d'une fourmi.
Ouais, c'est pas forcément facile.
Marie-Monique Robin, vous avez tourné dans le monde entier, et là, il suffit d'aller à Saumur, finalement, pour rencontrer exactement la même problématique. Ouais, c'est le manque de biodiversité qui fait qu'il y a problème-là, quand même.
Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, et moi, j'ai vraiment découvert ça, en fait, à quel point cette biodiversité, moi, j'y étais attachée, mais vous savez, un petit peu de manière romantique. Enfin, c'est tant mieux, on n'a pas envie que les pandas disparaissent. Moi, j'ai vraiment compris là que cette biodiversité, c'est notre maison commune, vraiment, et que si on la détruit, ben, on va pas, c'est ce qui est dit dans le film, hein, on va pas survivre à ça. Et qu'il faut vraiment élever cette cause au même niveau que celle du climat. D'ailleurs, elles sont liées. Et comprendre que la biodiversité, non seulement, elle est liée à notre santé, mais que quand on en a plus, eh bien, on souffre de plein de maux et de phénomènes, comme on vient de décrire, là. Hein, c'est-à-dire, la biodiversité, elle nous protège. Ouais. Voilà.
Et comme disait Charles Morand, le pire, c'est que ce sont les rats qui vont nous survivre dans toute cette histoire. Alors là,
tant mieux pour
c'est tragique pour les humains. Allez, on se retrouve dans un instant à la suite de cette discussion autour de la fabrique des pandémies. I haven't seen you for days now, girl. Winter is striking hard. Made my way to the earth. Could we ever believe it's wrong? Or feed out the open minds. I would feel like you're on your own. I guess you're doing fine. All the things that you feel. Burning Flag. C'était Rover.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent.
Il faut recréer du lien entre les humains et les non-humains. C'est-à-dire, il faut réapprendre à vivre ensemble. Ça, c'est la seule solution.
On s'est rendu compte que les causes majeures, déforestation et tout ça, c'était lié à l'économie, au modèle économique qu'on avait de croissance infinie sur une planète qui est finie.
Voilà, plusieurs des chercheurs, dont Serge Morand, que vous avez rencontré pour votre film Marie-Monique Robin, La Fabrique des Pandémies.
C'est que des hommes que vous avez rencontrés? Il n'y a pas de femmes dans ces milieux-là?
Non, il y a Felicia Kissing, il y a Patricia Wright, il y a
Madagascar,
Vicente, il y a Patricia Wright qui est vraiment formidable, primatologue. Non. Alors, il y a plus d'hommes que de femmes, ça je le conseille.
Laura Cordier.
Oui, Laura Cordier, donc, qui est épidémiologiste.
Et puis, Juliette Binoche. Voilà. Qui a fait les dessins de votre film?
Alors, Valentine Plessis, magnifique.
Qui a signé la musique de votre film?
Émilie Loiseau.
Qui a réalisé? C'est vous. Donc, ouais. Ça fait quatre femmes.
Oui, mais c'est sur la science. Je demandais si, justement, dans ce milieu-là, Serge Morand, il y avait plus d'hommes que de femmes qui étudient la fabrique des pandémies, en l'occurrence.
En termes de personnes qui travaillent en conservation, c'est très partagé. C'est-à-dire que c'est plutôt, les primatologues, c'est toutes des femmes, quoi, qui étaient vraiment importantes. Maintenant, ça change un peu, ça devient plus équilibré. C'est vrai qu'en termes de médecine, et surtout de médecine conservation, de ce qu'on appelle la médecine de conservation, c'est des vétos. Et c'est plus récent que les vétos sont devenus des femmes. Enfin, sont de plus en plus, un corps féminin. Au départ, c'est que des hommes, quoi.
Tiens, pour le plaisir, on va écouter un petit extrait de la chanson d'Émilie Loiseau.
Elle est belle.
Elle est très chouette. Ouais. On l'écoute, on l'a. C'est votre film.
De fin, c'est très émouvant. Ouais. Parce qu'avant, on a ce tout petit lémurien, le plus petit primate du monde, qui est menacé d'extinction, et c'est Madagascar, qui ne supporte pas la lumière du jour, donc on est dans un laboratoire en infrarouge, et on comprend que si ce petit primate disparaît, et donc les forêts primaires, les dernières qui restent à Madagascar, parce que 90% des forêts ont déjà été rasées, eh bien nous allons aussi disparaître. Quoi. On est liés, on est interconnectés, c'est ça qu'il va falloir qu'on le comprenne vite, parce que sinon... L'avenir est sombre, franchement. Mais on peut encore.
Ouais, et c'est le message d'ailleurs du film, quand même, à la fin. C'est qu'il y a de l'espoir, on peut encore agir. Serge Morand, donc on a compris que la fabrique des pandémies, c'était beaucoup la déforestation, quand même. Est-ce que reforester, ça peut être vraiment une solution?
Et c'est plutôt intéressant parce que, alors, il faut voir la vraie reforestation, quoi. Parce qu'on a aussi l'afforestation qui est plutôt la conversion notamment de prairies pour faire de la forêt, souvent de la forêt de type, la forêt de type productif, qui marche pas du tout, même
monoculture, plantation.
Voilà. Et par contre, la reforestation. Et là, les exemples qu'on a juste en ce moment en Thaïlande, pour moi, sont fantastiques. Là où on était, Marie-Monique avec Juliette aussi. Donc cet endroit-là, juste à côté, qui est tout reforesté, on a eu toutes les images des pièges photographiques. Juste à côté, on a le retour du chat léopard, du lynx asiatique, de l'ours asiatique, civette, mangouste, pangolin,
dans une des zone zones où comptées. Il était interdit de déforester aussi.
Oui, c'est ouais. Ça.
En 20 ans.
Il y a une reforestation communautaire qui a été faite avec les communautés. Ouais. Donc cette forêt est gérée par les communautés. Donc c'est un commun. Ouais. Et il y a aussi une reforestation de la Royal Forestry, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de vous revoir tous ces animaux. Et à cette manière intéressante, justement, nos premiers résultats montrent que des rongeurs qui sont plutôt ces rongeurs synanthropiques qu'aiment bien les humains, les rats réellement, quoi, diminuent. Leur densité est beaucoup plus faible que dans les zones qui sont beaucoup plus rurales, quoi.
Mais attention, il est dit bien dans le film, pas de plantation, des VA, enfin de grandes monocultures. Ou d'eucalyptus, enfin parce que c'est pas des forêts d'abord, c'est monospécifique et puis c'est pas bon pour la santé, ça attire les moustiques, enfin etc. Donc
de la diversité là encore.
Voilà, c'est ça. Alors à Madagascar, ils replantent, on voit dans le film, avec des arbres endémiques, donc voilà, alors, ça prend un certain temps, mais en 20 ans quand même, tu peux avoir une belle forêt. Et moi, j'étais impressionnée en Thaïlande parce que c'est quand même ça une bonne nouvelle, c'est que ils ont arrêté les cultures sur brûlis, hein, qui avaient fait que les forêts étaient chauves, dit le chef de district avec qui on était. Tu sais, Lita Tamazeri, il dit la montagne était chauve, c'est une belle expression, elle est plus chauve, et c'est en 20 ans. Et c'est une forêt secondaire, mais c'est une forêt, quoi. Voilà. Ouais. Et on l'a vu, les chauves-souris reviennent, il dit, elles étaient plus là, les chauves-souris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc,
et ça va vite. Deux décennies, oui. C'est rien pour revoir ces animaux revenir quand même. Bon, donc, mais ça, c'est encourageant quand même.
Ça n'empêche pas qu'il faut quand même arrêter de détruire les dernières forêts primaires qui existent, parce que pour avoir une forêt primaire, c'est au moins 700 ans, donc voilà. Et ça, c'est vraiment urgent.
Là, c'est une forêt secondaire, hein, c'est ça, c'est une forêt secondaire. Hein.
Voilà. Mais au-delà, pardon, de la déforestation, il y a aussi ce dont on a beaucoup parlé, c'est les échanges, enfin le fait que l'homme se rapproche aussi de plus en plus des habitats, qu'il y a donc de plus en plus d'interactions, et donc de plus en plus de circulation du virus, Serge Morand.
Donc c'est un peu ce mélange-là, il y a une augmentation des cultures, donc qui sont à la fois en extension territoriale et en intensification, donc ce qui veut dire en termes aussi d'impact sur les sols, sur la diversité, couplé en même temps avec une augmentation des animaux d'élevage, donc intensifs ou extensifs, qui sont des vrais amplificateurs et qui sont vraiment des hôtes intermédiaires. Alors ils nous ont donné beaucoup de parasites, ils continuent à nous donner des parasites, des virus, mais c'est des véritables amplificateurs. Donc ces combinaisons des deux, alors qu'on a une biodiversité qui se réduit, et avec une biodiversité des animaux qui sont en stress, favorisent finalement ces passages qu'on appelle ces spillovers ou ces débordements, ces amplifications, et ça démarre.
Ouais. Chauve-souris, c'est dingue. Hein. À Atlanta, on voit donc Thomas Gillespie, hein, donc un primatologue et aussi écologue de la santé, qui travaille que sur le stress des chauves-souris. Donc, il mesure les hormones, qui montrent que quand tu perturbes l'habitat naturel des chauves-souris, parce que tu brûles la forêt pour mettre une monoculture de palmiers à huile ou je sais pas quoi, elles vont excréter tous les virus dont elles sont porteuses et elles stressent réellement, quoi. Mmh. Et c'est là qu'elles peuvent contaminer des aliments qui sont dans la forêt, que va manger un animal sauvage, et ensuite te transmettre à un animal domestique. Donc voilà. Et il y a un stress, comme tu dis, qui favorise l'excrétion de tous ces agents pathogènes dont j'ai moi compris finalement qu'ils étaient avec nous depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, hein, Serge? Des parasitologues, ils nous embêtaient pas, ils étaient là. Et c'est maintenant. En fait, c'est nous qui permettons aux chauves-souris,
nos activités humaines,
eh bien, de faire en sorte que ces virus sortent du bois, comme je dis.
Fred nous écrit sur franceinter.fr, pourquoi ce genre de film-là ne passe pas sur les grandes chaînes nationales? Marie-Monique Robin, un petit Fabrique des pandémies, un soir à 21h sur TF1, non?
C'est son choix, là.
Voilà, c'est groupe TF1.
France 2, sur France 2.
Ce film, Arte n'en a pas voulu, donc voilà, il faut le dire, hein, c'est la première chose. Mais en fait, ça m'est égal, parce que on a réuni pour ce film 32 partenaires.
Le fond, c'est quoi, c'est trop angoissant, c'est quoi le fond? C'est que ça va faire trop peur aux gens?
Parce qu'il faut, quand même, c'est pour ça que Juliette, sa présence aussi de Binoche est importante, parce que il faut quand même, tout le monde a peur de la science. Enfin, moi, je fais des films, j'en ai fait beaucoup sur la science, mais ça fait peur, on se dit, on va rien comprendre, tu vois. Donc, je pense qu'il faut un peu de courage pour passer ce genre de film. Voilà. Alors.
Et puis là, c'est un vrai film de science, quand même. C'est un film rigoureux, voilà. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de romantisation, il n'y a pas de fiction.
Non.
Donc on est dans de la science pure. Et ça, une grande chaîne de télévision, en plein temps, ils n'aiment pas.
Ils n'aiment pas, voilà.
Même avec Juliette Binoche.
Voilà, mais bon, ce film va être vu, revu, et surtout, j'espère qu'il alimentera plein de débats partout, parce qu'on a beaucoup de demandes, partout dans le monde, hein, en ce moment. Alors, on n'a pas commencé à communiquer pour que les gens protègent la biodiversité chez eux.
Est-ce qu'il va sortir en salle?
Oui, alors en fait, ce n'est pas une sortie salle stricto sensu, parce qu'il passe à la télé, mais on va le faire circuler. Et déjà, on a 200 cinémas qui le demandent, des salles paroissiales, des salles de fête, enfin, pour faire des projections de débat, d'ailleurs moi je suis beaucoup sur la route, mais en ayant recours à tous ces gens qui sur nos territoires, évidemment, voilà, et partenaires France Nature Environnement par exemple, la Ligue de Protection des Oiseaux, pour que tous les gens qui défendent la biodiversité sur nos territoires s'emparent du film pour dire voilà, les arguments sont là.
Serge Morand, vous qui parlez donc d'épidémie, est-ce que le plus gros et le plus stressant reste à venir, ou qu'est-ce que vous pensez vous dans vos travaux là? En gros, on va encore s'en prendre plein.
Voilà, c'est toujours.
Nous sommes entrés dans l'ère des pandémies.
On est dans l'ère des pandémies. On est dans qu'on appelle la grande accélération, hein, dans l'anthropocène. Donc, finalement, avec toute l'augmentation de tas de problèmes, hein, pour l'ozone, tous les biocides, toute cette baisse de biodiversité, ben, les pandémies sont aussi, font partie de cette grande accélération, de cet impact de l'anthropocène. Donc, ça veut dire que ça doit gérer globalement les pandémies.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre à en vivre encore d'autres beaucoup?
C'est clair.
Et de façon plus rapprochée encore?
C'est clair. Pour moi, c'est clair. Je suis incapable de dire quoi, quand, où. Je pense que là, on se met un peu le doigt dans l'œil en pensant qu'on sera capable de pouvoir vraiment prédire. Mais on sait que c'est sûr que ça va arriver.
En tout cas, c'est aussi un film politique d'une certaine manière, parce que le message, c'est que notre modèle économique basé sur la croissance ne fonctionne pas, parce qu'évidemment, il y a des conséquences directes sur les ravages faits à la biodiversité. Donc, ce sera une avant-première demain à l'UNESCO. Je crois que c'est complet, Marie-Monique Robin.
Ah oui, il y a 1700 inscriptions, une salle de 1300. On ouvre une deuxième salle, donc c'est super. Après, il y a des avant-premières au muséum, il y a des avant-premières à la salle de Bernardin.
On peut se renseigner en allant sur un site particulier.
Donc, vous allez sur Facebook et sur la page du film, et vous verrez toutes les avant-premières, y compris à Genève, à Bruxelles, à Luxembourg, à Atlanta, à Mexico, enfin, partout, là,
La fabrique des pandémies, hein, c'est son titre, avec également le livre qui le précédait aux éditions de La Découverte, et puis Serge Morand chez Fayard, L'homme, la faune sauvage et la peste. Et on était super heureux de vous accueillir parce que vous êtes en Thaïlande.
Depuis le temps.
Et ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu en France. Merci à vous.
Merci à vous.